Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Les contacts humains sont plus faciles, quoi, parce que les gens sont plus disponibles.
Je sais pas si moi tu vas te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça, Laurent.
Écoute, Bernard, oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, 9h13, les grandes gueules du sport rendent hommage évidemment aussi, comme toute la France, à Michel Blanc, à Jean-Claude Buss, disparu cette semaine. Les grandes gueules du sport, vous le savez, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche, de 9h à midi. J'espère que vous êtes en forme. Nous, vous allez pouvoir le constater que les grandes gueules, elles sont très en forme et on a envie de débattre évidemment tout ce week-end. Au sommaire aujourd'hui, la retraite d'Antoine Griezmann, 5 jours après, la France du foot a encore du mal à s'en remettre. Est-ce aux joueurs de décider d'arrêter leur carrière internationale? C'est la une des GG dans quelques instants et je sais, mes GG, que vous n'êtes absolument pas d'accord sur ce sujet. Hugo Radou reprend aujourd'hui sa vie de rugbyman, lui qui est toujours mis en examen pour viol. Il sera même titulaire à Perpignan. Est-ce un retour précipité? Ce sera le bras de fer des GG à 10h, 11h. L'affaire Lassana Diarra va-t-elle révolutionner les transferts dans le football? Hier, la Cour de justice de l'Union européenne a épinglé la FIFA, estimant que certaines règles des transferts étaient contraires au droit. Nous allons ouvrir le dossier, nous allons tout vous expliquer. Nous serons avec une avocate en droit du sport. Sans oublier vos rubriques traditionnelles, la punchline des GG, Paul Pogba a eu enfin une bonne nouvelle hier soir. Il pourra rejouer au foot en mars 2025. Le zapping des GG, on s'en fout pas. Beaucoup d'informations à vous donner, notamment le nul surprise de l'Olympique de Marseille. Et puis, le fameux débat caché. Et je sais que celui-ci, il va vous régaler. Ce sera à 11h30.
Monsieur Duc, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton.
Planté de bâton, là.
Les grandes gueules du sport ce matin, elles s'y attendaient à cette présentation, évidemment. Oui. Mais bronzées à moi, une grande gueule qui, comme Jean-Claude Duss, c'est vrai qu'on a parfois envie de lui planter le bâton. Christophe Cessieux, salut Christophe.
C'est vrai. Mais il faut quand même rappeler que les initiales de Jean-Claude Duss sont les mêmes que Jean-Christophe Drouet. Donc moi, je serais toi, je ferais pas le malin.
C'est vrai, mais je me sens proche.
Et c'est vrai qu'il y a quand même une bonne tête de Jean-Claude Duss le matin, tu vois. Tu sais, juste après avoir conclu, quoi. Ou alors jamais conclu plutôt.
Je me sens proche, évidemment, de son personnage. Tu as bien raison. Salut, mon Christophe. Une grande gueule qui, comme Jean-Claude Duss, commande toujours une chambre double au cas où. Denis Charvet. Salut, Denis. Alors, la patronne de l'hôtel, elle est venue
Oui, elle est venue.
Ça va?
Ouais, ça va, impeccable, en grande forme.
Ouais. Toi le cinéphile, toi l'homme de cinéma.
J'ai vu les films, comme vous d'ailleurs. J'ai vu tous les films de Jean-Michel Blanc, mais c'était avant tout un très grand comédien. Voilà, il a réussi à faire de la comédie, mais surtout du drame, et il a été excellent dans le drame aussi.
Exactement, et on se souvient surtout de ce personnage de Jean-Claude Duss, mais qui a marqué toute une génération, et même les générations futures. Mais il faut le dire, il jouait d'autres rôles et à la perfection.
Un grand comédien.
Une grande gueule qui, comme Jean-Claude Duss, elle a souvent eu du mal en carrière à conclure. Marion Bartoli, salut Marion.
Bonjour les amis.
C'était dur de conclure en carrière ou pas?
Je sais pas. Regarde mon palmarès.
À chaque fois, elle me remet dans la tête son palmarès. Bravo. Bah, on n'a pas parlé de ce premier tour à Cincinnati une fois.
Oui. Non.
Ça va, Marion?
Ça va, nickel. Je suis
ravi
avec vous,
de
surtout,
te retrouver.
Mais ça y est, enfin.
En studio pour la sortie de ton livre. Oui. On en reparlera évidemment dans cette émission. Un petit peu de promotion, d'autopromotion. Ne fait jamais de mal.
Oui.
Et puis, une grande gueule qui, comme Jean-Claude Duss, il ne peut pas tout miser sur son physique. Fred Bates, salut Fred.
Salut, tu sais
tout le monde le savait.
Mais écoute, oui, j'ai pas tout misé. En plus, c'est pas tout à fait vrai. Hein. J'ai fait du basket grâce à mon physique, donc concrètement, j'ai tout misé dessus.
Je vais te refaire la même vanne, mais à chaque fois, tu auras la même vanne chaque semaine quand on parlera évidemment, malheureusement, d'un acteur qui n'est plus parmi nous. Ouais. Ne fais pas le biopic de Michel Blanc. Okay.
Promis.
On a déjà compris une fois avec l'abbé Pierre.
Je l'aime trop.
Tu ne recommences pas.
J'arrête.
Il suffit de brûler les idoles.
Oui, oui. Mon frère, évidemment, homme de cinéma désormais, une star est avec nous. On va débuter cette émission. Sachez que sur RMC, les grandes gueules, non pas du sport, nous c'est la 13e saison, mais les grandes gueules de la semaine fêtent leurs 20 ans. À partir de ce lundi, les grandes gueules vous offrent jusqu'à 5000 euros par jour. Dès que vous entendez ce titre de 2004, titre extrêmement célèbre. Outcast. 2004-2024, 20 ans des grandes gueules. Ouais. Ce sera le moment de vous inscrire en envoyant GG au 732-16. GG au 732-16. Restez bien à l'écoute de cette émission. Ça va tomber évidemment dans les grandes gueules du sport. Allez, on débute avec cette citation de Napoléon Bonaparte qui a dit un jour « On peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend ».
La une des grandes gueules du sport.
Tu représentes ton pays et voilà, c'est quelque chose de beau. Chaque enfant rêve de porter ce maillot, donc voilà, ça sera tout donné pour ce maillot.
Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contre-pied parfait. Et le but, Antoine Griezmann. Allez, Griezmann qui récupère le ballon, le relais de Giroud.
J'essaierai d'être le plus discret possible. De toute façon, c'est juste pour 2-3 nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose.
Lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça.
Je sais pas si moi tu vas te casser la gueule, tiens.
On s'en reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.
Eh oui, allons-nous revoir Antoine Griezmann en bleu? C'est pas la question du jour, évidemment, mais pourquoi pas rêver? C'était la bombasso du début de semaine, un véritable coup de tonnerre pour l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire des Bleus. Lundi matin, Antoine Griezmann a donc pris tout le monde de court en annonçant la fin de sa carrière internationale. Décision surprise en cours de saison, à moins de 2 ans de la Coupe du Monde, aux États-Unis, et alors qu'il fait toujours partie des meilleurs joueurs français du moment. La musique qui fout les jetons. Et cette question, est-ce aux joueurs d'arrêter leur carrière internationale? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Eh bien, je dirais non.
Marion Bartoli?
Oui.
Denis Charvet?
Non.
Fred Weiss?
Évidemment que oui.
C'est un 2 contre 2 pour débuter ce samedi matin et je sais que ça va être enflammé. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Fabrice Hawkins, suiveur des Bleus. Salut Fabrice.
Salut JC, salut à tous.
Antoine Griezmann a donc pris la décision tout seul, en son âme et conscience.
Oui, comme un grand, Antoine Griezmann a appelé Didier Deschamps samedi dernier, non pas pour le consulter, mais pour lui annoncer qu'il allait arrêter de jouer en équipe de France. Personne d'autre n'était au courant. Ce n'est pas la première fois que cette idée lui traverse l'esprit, mais cette fois, le sélectionneur a pris acte de son choix.
C'est pas une décision sur un coup de tête, c'est une décision qui a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri et abouti. Comme d'autres joueurs avant, il a commencé au monde professionnel à 18 ans, en faisant des saisons bien remplies, très peu souvent blessés. Il arrive à un âge de 33 ans et demi, et c'est une question qui est naturelle et logique. Il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue psychologique. Dans sa réflexion qui a commencé, il vous le précisera, je ne vais pas parler à sa place, même si j'ai échangé longuement avec lui. C'est une décision qu'il assume bien évidemment et qui lui va bien.
En tout cas, le numéro 7 des Bleus ne prenait plus autant de plaisir à venir en équipe de France. Sa retraite internationale n'est qu'une demi-surprise chez ceux qui côtoient la sélection. Les retraites successives d'Hugo Lloris, Raphaël Varane et Olivier Giroud l'ont touché. D'autant plus que son statut a changé. Grisou n'était plus titulaire indiscutable. Le dernier rassemblement l'a prouvé, mais pour Didier Deschamps, ce n'est pas pour ça qu'il a arrêté.
Et au mois de septembre, c'est pas le fait qu'il ait joué, c'était prévu. Je lui avais annoncé, comme à d'autres aussi, qu'il allait commencer un des deux matchs. Le fait qu'il n'avait pas été capitaine, il a été vice-capitaine. Antoine a pu être déçu ponctuellement, mais ça n'a pas duré.
Ne pas avoir été choisi comme capitaine après le Mondial 2022 restera une blessure pour Antoine Griezmann, le point de départ de son mal-être. Après 137 sélections, 44 buts et 30 passes décisives, il est assurément une légende de l'équipe de France.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins pour ces précisions. On a parlé donc des raisons toute la semaine d'Antoine Griezmann d'arrêter sa carrière internationale, mais est-ce aux joueurs de l'arrêter? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est non pour toi Christophe Cessieux, avant d'entendre évidemment les sportifs.
Alors, c'est non. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Si on considère uniquement l'esprit de la loi et en vertu des services rendus à la nation, effectivement, tout au long de sa carrière, je comprends très bien la décision de Griezmann. Et moi, je vais sûrement pas la remettre en question. En plus, on l'a entendu dans les propos de Didier Deschamps. C'est une décision commune ou presque. Je veux dire, il est allé quand même voir le sélectionneur pour lui dire, ouais. Didier,
ça c'est la communication, mais c'est pas grave.
Moi. Ouais. Enfin, je vais arrêter. Est-ce que voilà. Et après, c'est lui qui a fait son annonce. Il a toujours été un joueur exemplaire, rempli ses devoirs auprès de la sélection. Donc, il n'y a rien à dire ce côté-là. Nous sommes en démocratie. Un joueur doit pouvoir décider pour des raisons précises de mettre fin à sa sélection. Maintenant, si le cas Griezmann ne semble pas poser de problème au sélectionneur, qui accepte sans broncher la décision, il est des cas où ça pourrait quand même poser problème. C'est-à-dire, imaginez par exemple que le Real éprouve soudainement l'envie que Kylian Mbappé reste au sein du Real et ne rejoigne plus la sélection parce qu'ils ont besoin de lui et qu'il est un peu sur une jambe. Regardez, c'est en train de se passer en ce moment.
Et on en parlera demain. Hein,
ouais. C'est-à-dire que Mbappé va sans doute jouer ce soir avec le Real, mais il n'est pas apte pour l'équipe de France. Donc c'est pression de la part du club sur le joueur pour qu'il ne rejoigne pas la sélection. Et c'est la raison pour laquelle un règlement a été mis en place par la FIFA pour empêcher ce genre de choses. C'est le règlement très précis de l'article 3,1.1 de l'annexe du règlement du statut du transfert de joueur de la FIFA précise qu'un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l'association du pays pour lequel le joueur est qualifié et de poursuivre en principe tout joueur enregistré auprès d'un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l'une des équipes représentatives d'une association qu'il est autorisé à représenter sur la base de sa nationalité. Donc le règlement est très clair. Quand une sélection t'appelle, tu y vas. T'as pas d'autre choix. Autrement, c'est ton club qui va être sanctionné. Donc là, en l'occurrence, si Deschamps avait envie d'empêcher Griezmann de prendre sa retraite et il décide de l'appeler, le droit serait pour Didier Deschamps.
Un joueur arrête sa carrière professionnelle en club et il a bien le droit et c'est ça et c'est son choix et ça personne le remet en cause. Mais la carrière internationale, mais c'est ce que tu dis. La carrière internationale, c'est autre chose. C'est au sélectionneur, c'est à la nation de faire appel à toi, Fred Weiss.
Oui, alors c'est là que je me rends compte que les journalistes et les sportifs sont complètement en décalage. Hein. Vous idéologisez. C'est ça qui m'ennuie, c'est que Denis est avec vous. Denis,
oui, vas-y, qui a fait du sport, vas-y, donne tes arguments, j'en aurai les meilleurs.
Les arguments sont super simples. Vas-y. C'est-à-dire que, en gros, quelqu'un qui commence la sélection à 18 ans, et certains le commencent plus tôt, il va se taper tous les étés avec la sélection. Il va à chaque fois ne pas avoir de vacances. Il va à chaque fois être épuisé. Alors, est-ce qu'il peut avoir des raisons familiales? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce qu'il peut avoir envie de voir sa famille, profiter un peu de sa famille?
Arrête,
est-ce qu'il
ça,
peut
il a toute la vie derrière pour voir sa famille.
Mais oui, mais non, mais c'est pas comme ça. Mais tout le monde n'est pas de la même manière. Denis, tu peux pas.
Mais moi, je suis pas du tout fabriqué comme c'est... ça, donc ça me rend fou. Ça me rend fou.
Mais moi, je l'ai fait sans aucun problème. À 30 ans, je leur ai dit, j'en ai marre, parce que j'ai envie de profiter de mes étés. Parce que depuis que j'avais 13 ans, j'étais tous les étés en équipe nationale.
T'as arrêté ta carrière en club aussi?
Mais non, aucun rapport.
Ah non, c'est-à-dire que t'allais prendre l'étude, mais le pays t'en voulait plus.
Mais le pays te donne quoi?
Non,
arrêter ma carrière plus tôt du fait que l'équipe de France me prenait de l'énergie. Mais parce que être tout l'été sur le pont.
Mais je peux comprendre c'est l'assitude.
En plus que toi, David, Denis, que tu dises ça, c'est pas possible. Non, que les journalistes le disent, c'est normal parce qu'eux, ils ont des vacances, ils en profitent de leurs vacances bien tranquillement. Nous, on en a pas et c'est normal qu'on a envie d'en avoir un moment.
Ok, mais t'as 20 ans, 30 ans après pour te reposer. Donc moi, personnellement, je suis peut-être journaliste.
Mais c'est ce que je dis.
Mais pour essayer de durer dans ces jeux, c'est inaudible. Ça veut dire que tu ne prends pas de vacances l'été?
Mais c'est inaudible.
Ça veut dire que tu profites pas de ta famille?
Mais c'est inaudible.
Donc c'est pas les êtres humains, les sportifs.
Mais moi, j'ai pas la chance de pouvoir représenter.
Mais quel rapport à un moment, t'as le droit de profiter de ta famille parce qu'il y a la vie et il y a le boulot. C'est du boulot, un sportif.
Mais c'est, je comprends pas le raisonnement parce qu'en fait, en plus, dans le cas de Griezmann, là, je fais une petite parenthèse, s'il avait été capitaine, jamais il aurait arrêté sa carrière. Jamais. Donc là, on parle d'un truc qui, en plus, me dépasse vraiment parce que, quand Didier Deschamps, il a pris sa décision.
Il se serait pas permis de le faire.
mais jamais, ça veut dire qu'il aurait eu la ressource intellectuelle, morale ou psychologique pour redémarrer un tour.
Mais peut-être que mais, ça l'aurait aidé à avoir cette ressource, Denis, justement.
Mais qu'on a besoin de se régénérer, je suis d'accord avec vous. Votre discours de dire on est là, on est en pleine lassitude,
surtout que les basketteurs français NBA,
il faut
6 mois. Tous les 4 ans à peu près, c'est ça, ils viennent faire les Jeux Olympiques.
Mais moi, je ne parle pas de tous les sportifs, je parle des sportifs. On parle de Griezmann qui fait son club et la sélection.
Fred, le fait de se régénérer, je le comprends. Le fait d'un moment donné d'être au bout d'un certain cycle, je le comprends. Mais de là à arrêter d'un coup sa carrière internationale, de plus porter le maillot de l'équipe de France, je ne le comprendrai jamais.
À
partir du moment où tu joues encore au haut niveau. Et là, lui, il joue encore au très haut niveau, puisqu'il joue à l'Atlético de Madrid, qui est un des meilleurs clubs au monde. Donc, je suis désolé.
Mais il a envie de se préserver. Il a le droit, lui aussi.
Mais t'as le droit de te préserver, mais t'as le droit de calculer avec ton club, t'as le droit aussi de discuter avec ton club, avec les dirigeants français, et de te trouver un arrangement. Je comprends pas que le mec, il décide tout seul. C'est pas à lui de décider, c'est à la fédération. Et moi, pour finir, je serais mort sur un terrain. Donc moi, le fait de me suis arrêté à 35 ans parce que je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Mais c'est pas un silence, si j'avais pu. Soit Griezmann, il peut continuer, mais qu'il continue.
Ce n'est pas aux joueurs d'arrêter leur carrière internationale. Marion, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. On est très pris par le temps. On revient dans quelques instants et vous allez voir, Marion va vous rentrer dedans, mon cher Christophe et mon cher Denis, parce qu'elle est sur la même ligne que Fred.
Malheureusement.
On va le regretter. A tout de suite sur
logiquement.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Denis Charvet, Fred Weiss. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. On parle du nul surprise de l'OM à domicile face à Angers, les supporters qui grondent déjà. Mais restons un instant sur notre débat. C'était le coup de tonnerre cette semaine. Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale. Est-ce aux joueurs de décider de leur retraite internationale? J'ai deux oui, j'ai deux non en plateau. Marion Bartoli, pourquoi oui?
Alors moi, j'aimerais refaire un petit peu le film et remonter à la genèse de ce qui s'est réellement passé, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. En fait, pour Antoine Griezmann, tout part de la finale de la Coupe du Monde 2022. Ok, donc il fait une bonne Coupe du Monde de manière générale, mais sa finale, il la rate comme beaucoup d'autres joueurs. Ok, donc déjà, il sort de ça, il est frustré de cette finale de Coupe du Monde et Didier commence à se dire, finalement, son statut un petit peu intouchable avec Antoine Griezmann, qui était vraiment la pièce maîtresse de la décennie Deschamps, on l'a vu sur le nombre de sélections, on l'a vu aussi sur le nombre de sélections consécutives et c'était vraiment celui qui construisait le jeu de l'équipe de France. Déjà, ce statut change. Ensuite, il prend un gros coup sur la tête quand le brassard de l'équipe de France ne lui est pas donné. Et même si Didier dit oui, il a été déçu, mais de manière sur quelques jours, pas si longtemps, pour moi, c'était une cassure qui a été marquante. À partir de là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, il y a un euro dans un an, donc je ferme ma bouche. Ok, je veux jouer pour l'Euro pour l'équipe de France, je continue avec mon club, on va voir la forme que j'ai. Mais à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'il a été beaucoup moins indispensable, il a beaucoup moins bien joué, ses performances ont été moins importantes.
Ça, ce sont les raisons, je suis d'accord avec toi.
Oui, attends, non, mais c'est important. Ce qui était son clan, ses gars, c'est-à-dire les gros mouvements de l'équipe de France, on voyait un petit peu des clans qui se formaient, donc sa génération, Giroud, Loris, Varane, Pogba, tous ces joueurs qui ont fait partie de cette aventure de 2018 ont commencé à partir pour Pogba pour d'autres raisons. Il s'est retrouvé avec une nouvelle génération où il y avait quand même beaucoup moins d'acquaintances et beaucoup moins de capacité à créer des liens et de plus en plus à être mis sur le banc, à cirer le banc, à voir Kolo Muani jouer à sa place. Dernier rassemblement, il rentre, finalement, il joue à la place de Kolo Muani parce que Kolo Muani est malade, il fait pas un bon match. Et je crois vraiment qu'un joueur à son âge, et j'aimerais quand même insister sur l'âge parce que Christophe a parlé d'Mbappé, un joueur qui a 25 ans peut pas du tout parler de la même chose qu'un joueur qui a 33 ans.
Mais
c'est très important le cas particulier.
Aujourd'hui, qu'il soit très bon à l'Atlético.
Il est pas encore très bon à l'Atlético. Non, il est pas très bon. Il est pas très bon à l'Atlético. Il était meilleur auparavant.
Mais aujourd'hui, il a mal avec l'équipe de France aussi. C'est peut-être ça qui
la saison dernière, il a fait 62 matchs. Okay. On a un joueur qui a 33 ans et demi.
Mais on parle de l'équipe de France.
Mais arrêtez avec l'équipe de France. Il a pas assez donné pour l'équipe de France. Il a pas assez joué le match. Il a pas assez porté le maillot, s'il vous plaît. C'est pas comme si c'était un joueur qui faisait sa diva en disant une fois je viens pas. Il les a rendus ses services pour l'équipe de France.
Non, c'est pas sacré. Pour moi, c'est sacré.
Mais non, l'équipe de France, à partir du moment où tu sais que tu vas mal te sentir, que parce que tu vas mal te sentir psychologiquement, tu vas mal performer, et parce que tu vas mal performer, tu vas pas être capable du coup d'aider l'équipe de France, parce que c'est quand même le but. Quand il portait le maillot, et on l'entend très bien dans son discours, il le dit, c'était un rêve de gosse, j'ai envie de me comporter le maillot, mais pour l'aider l'équipe de France, je pense qu'il a quand même le droit, avec le statut qu'il a, de se dire, je vais pas publier le livre de Vue du banc, ça joue pas mal, aux éditions du placard, parce que je suis là en train de voir Colo Magno en train de jouer à ma place, je crois qu'il a le droit quand même, non?
Comment t'expliques son rêve de gosse, c'est de jouer la Coupe du Monde aux États-Unis? Je suis désolé, il a affirmé haut et fort. Donc comment t'expliques que ce mec qui voulait vivre un rêve aux États-Unis avec la Coupe du Monde, mais d'un coup il arrête.
Mais il y a des phénomènes de vie.
Est-ce que vous pensez, non, moi j'ai une question à Marion. Est-ce que tu penses sincèrement que un jour, s'il revenait en équipe de France, il serait pas bon? Mais bien sûr qu'il serait bon à nouveau.
Mais non, mais n'est mais plus c'est bon. Faux. Mais non, mais ça fait un an et demi.
Tu veux dire qu'il a coupé en équipe de France, on pensait pas qu'il reviendrait bien et puis il est revenu. Il est le meilleur joueur du monde.
Mais très bon exemple, Christophe, parce que nous, notre question, est-ce qu'on se demande aujourd'hui, et vous avez été des sportifs, vous avez représenté l'équipe de France, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que c'est aux joueurs? Quand on parle de pays, on parle pas de club. Quand un joueur veut arrêter sa carrière, oui, il fait évidemment chose. Bien ce qu'il veut, si pour des raisons physiques, pour des raisons mentales, pour des raisons morales, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est à lui de décider l'équipe de France? Est-ce que c'est pas à la France, au sélectionneur, de dire je te prends ou je te prends
mais
pas?
Qui se mais connaît le mieux
plus grand sportif de tous les temps l'a fait.
Qui se connaît le mieux, le joueur
mais le
ou
plus
le sélectionneur
grand sportif français de tous les temps l'a fait.
Mais c'est un problème des.
Mais tu parles de Zidane.
Mais bien sûr, mais c'est bien lui qui a choisi le moment d'arrêter en équipe de France.
Mais dogmatiquement, on était tous très contents de voir Zidane revenir.
Mais c'est lui qui a arrêté. C'est lui qui a décidé d'arrêter ou pas?
Est-ce que l'équipe de France c'est ça? C'est je pars quand je veux et je reviens quand je veux.
Mais c'est pas possible.
Mais tu peux jouer pour l'équipe. Mais en fait, vous n'arrivez pas à comprendre un élément, c'est que pour jouer en équipe de France et pour représenter son pays, si tu as un minimum de dignité et de moralité, c'est de jouer bien, c'est-à-dire de la représenter correctement. Denis, s'il te plaît, regarde l'image d'Antoine Griezmann. Et j'adore ce joueur plus que tout au monde. Regarde ce qu'il a fait. Il est rentré, il a joué à la place de Colomoy pour l'Italie, il a été mauvais.
Mais t'as pas vu une chose, c'est qu'ils ont fait jouer à un poste différent, ils l'ont fait jouer avant-centre, ils l'ont trimballé. Ce mec s'est plus retrouvé dans une stratégie.
Est-ce qu'il a le droit de dire qu'à un moment donné, il se retrouve plus en cette équipe, il prend plus de plaisir?
Mais c'est pas un problème de niveau. Arrêtez de parler de niveau. Je pense qu'un Griezmann, il a encore le niveau pour jouer en équipe de France et qu'il est meilleur que ceux qu'il y a derrière.
Ben on l'a vu avec Zidane, il a quitté l'équipe de France, il avait encore le niveau.
Non, mais ce qui me rend fou,
il a quitté, personne n'a rien dit. On n'a pas fait débat parce qu'il a quitté l'équipe de France.
Moi, ce qui me rend fou dans le débat, c'est que non, l'équipe de France, le genre de se rendre au service de l'équipe de France. On est d'accord. Mais si t'as encore le niveau, t'as pas arrêté. Moi, pour moi, la question, elle est centrale, elle est là. Il a encore le niveau pour jouer en équipe de France, pour être le meilleur en équipe de France.
Mais et si Didier pensait ça, il le mettrait titulaire à chaque match,
mais
Denis.
Mais il y a une rupture, tu l'as dit, il y a une cassure, c'est une rupture quand tu as pendu le capitaine.
Mais donc, t'as le droit de pas
venir. Parce qu'il y a eu cette cassure. Moi, juste une question, je vais mettre les pieds dans le plat. Ça vous apporte quoi, l'équipe de France? Moi, j'ai 100 sélections en équipe de France. J'ai gagné une médaille olympique. J'ai quoi grâce à ça?
Mais t'as pas les souvenirs, des émotions?
Des émotions. Tu crois que ça nourrit ma famille?
Mais non, mais
dis pas, en quoi ça m'apprend?
Aujourd'hui, t'es une grande gueule du sport parce que t'as été international, parce que t'es vice champion olympique, pas parce que t'as été champion de France avec trifouiller les voix quand même.
T'as apporté la flamme olympique aussi grâce à ça.
C'est intéressant, Fred, parce que toi, tu nous opposes l'argument financier, mais
non, mais parti, ça s'entend. Niveau carrière en général.
Donc, tu nous dis qu'à un moment donné, t'as arrêté l'équipe de France parce que tu voulais privilégier ta carrière en club.
Exactement, parce que je savais que j'avais plus la condition physique pour faire les deux, parce que je me connais mieux que le CX. Exactement. Je savais qu'il était impossible pour moi de ne pas prendre de vacances d'été, de ne pas reposer mon corps, parce que j'ai en plus, vous le voyez, et tu l'as dit en préambule, j'ai un corps particulier. Donc évidemment que je savais qu'il fallait arrêter, parce que je savais que c'était le moment de choisir entre je continue à représenter la France, qui a été un honneur, un plaisir immense, et le fait de pouvoir continuer à ma carrière et gagner de l'argent et continuer à essayer de jouer au basket. C'est-à-dire que en gros, je continuais à faire ça, à ne pas avoir de vacances. J'ai commencé à 15 ans en équipe de France, où je n'ai pas eu d'été pendant 15 ans. Et si je continuais comme ça, j'arrivais droit dans le mur et j'arrêtais.
Et si le sélectionneur de l'époque te dit non, mais c'est moi qui fais la sélection, si j'ai envie de te prendre, je te prends.
Ah, t'es risqué péril, je vais venir et je vais rien foutre.
Ok.
C'est moi qui décide au final.
Philippe nous appelle au 32-16, il veut participer au débat. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous. Alors, juste une parenthèse, merci pour les JO, pour les commentaires. Ça a été une merveille.
Merci beaucoup.
Merci Philippe. j'étais en moto et je vous écoutais sur la moto, c'était un truc énorme. Bon, enfin, bon, bref. Après, Denis Charvet, excuse-moi, mais comment tu peux aller quelque part en reculant?
Pourquoi?
Comment veux-tu que tu ailles travailler, je parle du travail parce que c'est du boulot, quand tu as une boule au ventre et quand tu sais que tu vas être dans
mais il n'a pas une boule au ventre
c'est possible
tu plaisantes ou quoi? Et puis ce joueur a décidé quand même, c'est pas la fédération, tu as vu le bordel dans la fédération de foot? Non mais tu fais combien ça à la fédération de foot? Mais si ça a à voir.
Non mais on parle de maillot, non on parle, quand tu es dans l'équipe de France tu représentes ton pays, ton maillot.
Mais non mais je suis complètement d'accord, c'est pas quand tu es pris pour une truffe, tu leur dis maintenant, démerdez-vous. Mais alors, et il a bien raison.
Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais là, sur ce point, sur ce point-là, je suis d'accord à 100% avec toi. C'est exactement ce que j'ai dit. Il y a une rupture, il y a une déception, il y a un désamour entre les deux qu'on ne comprend pas, mais qui vient sûrement de Didier Deschamps. Mais voilà.
Bien sûr que ça vient de Didier Deschamps. Et c'est la fédération qui a viré Didier Deschamps. À un moment donné, il faut dire stop, Didier. Didier, c'est bon, tu nous as fait plein de choses, tu nous as fait pleurer, tu nous as fait rire. Maintenant, t'es une truffe. On le voit sur le terrain, c'est une catastrophe.
Alors là, c'est un autre débat. Est-ce aux auditeurs de virer le sélectionneur? On peut lancer le débat maintenant. Allons-y.
Le bordel dans l'équipe de France, qu'il y a. Mais c'est un truc de fou. À un moment donné, moi, je dis, il a entièrement raison. Il leur dit, ah, écoutez, les gars, vous voulez jouer, jouez entre vous. Moi, je reste pour mon club et je m'éclate avec mon club. Il a complètement raison.
Mais toi, tu dis ça par rapport à Deschamps. C'est un peu biaisé parce que nous, le débat, il est un peu plus.
Il est un peu plus vaste, il ne concerne pas que Antoine Griezmann. Mais après, on peut se demander aussi pourquoi Didier Deschamps n'a pas essayé de le retenir.
Il y a une compétition qui est rajoutée avec la Coupe du Monde des clubs du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis.
C'est vrai que c'est une Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Mais oui, les joueurs sont en désaccord avec les sélectionneurs. Il n'y a pas que Griezmann, il y en a d'autres aussi. Et c'est pour ça qu'ils arrêtent aussi.
Ok, je reprends la main.
Kevin De Bruyne en Belgique.
Est-ce qu'il n'y en a pas qui arrêtent à cause de la pression mise par les clubs aussi?
Je pense pas.
Ah bon. Eh ben, vous savez quoi? L'exemple de Kylian Mbappé qui n'est pas pris pour le rassemblement et qui joue ce soir. Mais c'est pas notre débat, attends deux secondes.
Regarde ce qui se passe en basket.
Et c'est pas notre débat.
C'est les clubs, c'est la NBA qui mettent la pression pour que les mecs ne représentent
pas. Évidemment,
plus.
Mais bien sûr, mais c'est vrai, ça arrive malheureusement. Ah
ouais.
Ça, oui,
Mbappé joue ce soir face à Villarreal. On en parlera demain, évidemment. Il n'est pas au rassemblement, mais il peut jouer avec le Real alors que Didier Deschamps nous avait dit qu'il était blessé, qu'il avait besoin de se régénérer. Il jouera ce soir, en tout cas, avec son club. On en reparlera demain, les copains. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous. Excellente.
Bravo, Philippe.
Grande gueule du sport.
Bravo,
9h43. Le nul surprise de l'OM. Alors, qu'est-ce qui se passe? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Denis Charvet, Fred Weiss à partir de 10h, le bras de fer, le retour sur les terrains. Il joue cet après-midi, il est titulaire, il s'appelle Hugo Oradou. On en a beaucoup parlé évidemment après cette affaire cet été en Argentine. Est-ce un retour prématuré? Ce sera le bras de fer donc à partir de 10h. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le nul surprise de l'OM à domicile face à Angers. On s'en fout pas. Denis Charvet.
Ah non.
On s'en fout pas. Non. Ok. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Marion Bartoli.
M'énerve.
Ça t'énerve. Donc tu t'en fous pas?
Non, je m'en fous pas.
Ok, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. En ouverture donc de la 7e journée, hier soir, l'OM a enchaîné un deuxième match de suite sans succès avec donc ce nul à domicile face à Angers qui était lanterne rouge. C'est la première fois de la saison, le public marseillais a largement sifflé son équipe à la fin de la rencontre. Écoutez Roberto De Zerbi qui prévient tout de même les supporters.
Non, on ne construit pas une équipe en un claquement de doigts. Nous avons énormément changé. Je ne fais pas comme les autres entraîneurs qui demandent du temps. Je ne veux pas de temps, mais je sais ce qu'il faut pour construire des équipes. Quand tu changes autant et que tu fais une révolution, c'est compliqué de tout avoir tout de suite.
Roberto De Zerbi ne demande pas de temps, ne demande pas un statut privilégié.
Là où il sait ce qu'il faut pour construire une équipe, du temps.
Là où ça m'inquiète, c'est quand il dit « je sais ce qu'il faut faire ». L'entraîneur qui sait ce qu'il faut faire, c'est bien lui pense qu'il va gagner déjà.
Comme Luis Enrique, quoi.
Oui, voilà. Donc là, j'ai de vrais doutes sur la personne.
Oui, mais c'est peut-être un peu sévère de siffler ses joueurs tout de suite, non?
Non, du tout.
Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour le temps. Ici, parce qu'Orangé prend carton rouge, qu'ils sont à 10 contre 11 et qu'ils sont pas capables de rester à 10 contre 11 et leur mettre 2-0 à la fin. C'est pour ça qu'ils sifflent. Après pour De Zerbi, moi, j'adore sa philosophie, son système de jeu. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a des joueurs qui, techniquement, à l'OM, n'ont pas la capacité technique de jouer le jeu de De Zerbi. tout simplement. Donc on va se retrouver avec des avec un niveau de jeu qui est extrêmement oscillant. Mais hier, la raison pour laquelle le public siffle, c'est parce que Angers prend carton rouge en premier et que comme des débiles, on prend carton rouge juste derrière et qu'on se retrouve à 10 contre 10 et à galérer. Et qu'en plus, on marque en premier en moins 1-0, on n'est quand même pas capable de garder score à domicile. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle le public siffle.
Après, le jeu, la pauvreté du jeu aussi, Mario.
Mais bien sûr, on ne se crée pas assez d'occasions. Ça, oui.
Donc c'est normal, les sifflets hier, c'est normal. Bah, oui, malgré c'est un très bon début de saison.
Ouais, pour moi, oui.
Okay. Je trouve ça un peu tôt.
Non, attention, ça vient après une défaite à Strasbourg. Non, mais
évidemment. Ouais. Évidemment.
Donc, si tu veux, c'est un enchaînement, il est pas bon.
Je suis d'accord, mais dès le début, on avait dit, on va laisser cette équipe se construire tranquillement, on va avancer.
Non,
mais je suis d'accord. Sauf que, je trouve ça quand même assez tôt. C'est logique par rapport à l'OM, mais en réalité, par rapport au championnat, c'est tôt.
T'as pas le droit à domicile, quand tu joues contre la Lanterne Rouge, qui prennent carton rouge avant toi, de pas être capable de garder 10 contre 11 et de pas être capable de refoutre 2-0 chez les autres.
Je dis pas que tu as tort sur le principe, je dis simplement que t'es à la 7e journée non, et tu commences à siffler déjà.
Tu dois gagner moi, ce match-là, tu vas pas Fred, faire 3 points, c'est tout.
Je pense que leur réaction est en rapport avec les saisons passées, il me semble.
Mais c'est là que c'est une erreur, Denis.
Oui, mais
c'est
bon,
une nouvelle saison, on
la
est
mémoire,
sur un nouveau projet.
La mémoire, les supporters. Si tu veux, il y a eu des matchs nuls l'année dernière, pareil, ils ont fait des matchs nuls contre Ajaccio, contre plein d'équipes.
Il y a 15 jours, on dit aux supporters marseillais, vous allez être champion de France, toi même va tout gagner. Et puis derrière,
tu as le droit de parler.
Tu as le droit de parler.
Bah oui. Mais maintenant, il faut rentrer dans le débat. Tu n'as pas envie de parler, tu ne parles pas.
Deuxième information.
Mais vous avez lancé le débat, laissez-moi rentrer un peu quand même. Moi, je pensais que ça allait juste durer 2 secondes. Quoi.
T'avais qu'à dire
que
je
parce que je sais que Marion allait faire
Est-ce qu'on peut donner à Alban parce que j'ai Alban, tu peux fermer le micro de ses yeux, s'il te plaît.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est un nouveau format en Coupe Davis avec le retour des matchs home et away. On s'en fout pas. C'était pour toi, Marion. Je sais que t'adores mon anglais. On s'en fout pas.
Je ne m'en fous pas.
Ok.
Je m'en fous.
Tu t'en fous. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
Je vous écoute. Je m'en fous, mais je vous écoute.
Nouveau changement pour la Coupe Davis, c'est la Billie Jean Cup. La Fédération internationale de tennis a dévoilé hier
Billie Jean King Cup.
J'ai dit quoi?
La BG Cup.
Ah, non, mais
c'est
précis
hein.
Quand même, j'y sais.
Oui, allez, c'est pareil. La Fédération internationale de tennis a dévoilé donc les nouveaux ajustements dès 2025, dont la formule, vous le savez, actuelle peine à convaincre. Alors, si la phase finale reste inchangée, avec une semaine en novembre en continu, ça va se dérouler à Malaga, le format en mode domicile extérieur, celui que l'on aime tant, fait officiellement son retour pour les deux premiers tours. Christophe Cessieux, pourquoi ça te plaît?
Bah, parce que moi, je suis nostalgique de l'époque, justement, où il y avait ces matchs home et away. Une fois d'après, c'est-à-dire que tu recevais une équipe chez toi, c'était le feu, il y avait une ambiance dingue, beaucoup de chauvinisme dans les travées d'un stade. C'était vraiment, moi, c'était une ambiance particulière. Évidemment, l'ambiance des grands chelems, elle est top, mais moi, j'ai toujours préféré celle de la Coupe Davis pour avoir assisté à quelques matchs. Voilà, et ben, on en était privé depuis la réforme de la Coupe Davis. Là, on y revient. Alors, ce sera pas pour les derniers matchs puisque le top 8 sera joué dans un seul endroit, mais on va de nouveau avoir le droit de vibrer pendant quelques tours. Puis de toute façon, pour l'instant, le niveau de l'équipe de France lui permet sans doute pas d'aller en finale, mais au moins là de vibrer, faire 2-3 matchs comme ça, les années 80, les années 90.
Est-ce que ça change la formule? Est-ce que c'est le retour de la Coupe Davis quelque part, Marion?
Bien sûr. Alors après, on espère que ça va aussi aller jusqu'à la phase finale et qu'on reviendra sur la formule initiale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour le pays hôte qui organise la phase finale, tu es directement qualifié pour la phase finale.
Ah.
Donc, un moyen, en fait, d'inciter, puisque ça coûte de l'argent, bien évidemment, d'organiser une phase finale. Voilà.
Donc on à accueillir dit... la phase finale oui. pour aller directement dans le
et
top
oui.
8.
Et oui.
Mais est-ce que nous, Français, on préfère pas plus juste les matchs du premier tour parce que c'est ça qui nous excite plutôt qu'aller faire le Final 8?
Tu vois comment t'es? Non, mais tu vois au fond.
Il a pas tort.
Je pose la question.
Il a pas tort.
Incroyable. Bon. Et donc, du coup, en fait, les phases qualificatives domicile extérieur seront pour 7 places qualificatives puisque la 8e est directement octroyée au pays hôte qui reçoit la phase finale.
Ok, en tout cas ça c'est
un bon début.
C'est dès 2025.
C'est un bon début. Voilà. Oui. Et par contre pour la Billie Jean King Cup ça sera en 2026.
Ok, voilà pour toutes les informations autour de
Billie Jean King.
T'as bien compris.
Tu allais beaucoup, toi, Billie Jean King Cup. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est la baisse de salaire de Vincent Labrune qui fait quand même polémique. On s'en fout pas.
Ah non, on s'en fout pas, c'est terrible.
Okay. On s'en fout pas.
Marion.
Je m'en fous, allez, je laisse parler les autres.
Alors, okay. Je m'en fous pas, non.
Alors, le conseil d'administration, déjà l'information de la Ligue de football professionnel, c'était mercredi, a acté une réduction de 30% de la rémunération de Vincent Labrune, le président de la LFP, qui d'ailleurs s'y était engagé, hein, après avoir largement été réélu à la tête de l'instance le mois dernier. Il passe donc de 1,2 million d'euros par an à 800 000 euros. Mais il y a des sénateurs, Laurent Lafont, le président, et Michel Savin, le rapporteur de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le foot français, qui ont dénoncé cette diminution en trompe-l'œil, parce que, vous le souvenez, Vincent Labrune avait triplé son salaire en 2022, passant de 400 000 à 1,2 million d'euros. Et pour eux, cette augmentation n'avait pas vocation à perdurer au-delà de 2024.
Une sorte de prime, en fait.
Donc, techniquement, le président de la LFP n'a pas réduit son salaire, mais a doublé son salaire, passant de 400 000 à 800 000. Christophe.
Oui, mais je trouve que le travail a été très bien fait. Il a bien enrhumé tout le monde. Ah, bah, je baisse de 30%, vraiment. Je suis obligé de vendre ma Clio. Je suis obligé de plus aller mettre de l'essence toutes les 15 jours. C'est affreux. Mais non, mais il a bien manœuvré. Matt Dalton est très doué en matière de hold-up. Matt Dalton, c'est comme ça que je l'appelais la dernière fois. Voilà.
Non, mais c'est pas au prendre sa défense, mais c'est ce bal des hypocrites. Tout le monde était au courant.
Ça a été validé par le conseil d'administration.
Mais tout le monde c'était validé, donc tout le monde savait.
Sur son augmentation?
Bien sûr.
Tout le monde savait que son augmentation était faite sur l'enveloppe.
C'est pas pour le défendre,
qui avait été attribuée après les 1 milliard.
Tout le monde est content. Tous les présidents sont contents de lui. Moi, à partir de là, je me tais. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus taper sur Labrune pour taper sur Labrune. Je suis désolé.
Johnny, il a été fort. Il a embrouillé tout le monde.
Mais non,
finalement, quelque chose qui devait être ponctuel, il l'a rendu pérenne. C'est-à-dire qu'en gros, il devait toucher 1,2 million, effectivement, jusqu'à fin 2024. Revenir à sa rémunération initiale.
Pourquoi personne n'a rien dit alors?
Il passe pour un grand senior en disant j'ai baissé 30%, sauf que finalement, il s'est augmenté de 100%.
Sauf qu'il n'y a que le Sénat qui a mis le nez dans.
Heureusement qu'il y a des sénateurs, des gens qui s'occupent de ton argent, parce que toi, tu regardes pas.
Mais non, c'est pas ce que je veux dire.
Heureusement qu'il y a les rapporteurs du Sénat.
Personne n'a regardé autour de lui. Je suis désolé, le président de la fédération, le président de la Ligue, le président de la fédération, Olas, Nasser, personne n'a dit.
Ce qui est sûr, tu as bien raison, c'est que les présidents ont voté son augmentation en 2022. Donc là-dessus, il n'a rien à se reprocher.
Mais non, il n'a rien à se reprocher.
Ça a été validé.
Normalement, c'est une augmentation ponctuelle qui est devenue une augmentation pérenne. C'est pas tout à fait pareil.
Bon, c'était l'une des informations de la semaine. Je voulais avoir votre sentiment sur ce sujet. Et pendant ce temps-là, Mario Bartoli était en train de boire du petit lait, là, tranquillement, à vous écouter, en train de manger du pop-corn. 9h56, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le basket.
T'as vu ce qu'il enfile,
le basket? T'as vu?
Il s'essuie les pieds avec Hugo Oradou reprend sa vie de rugbyman. C'est cet après-midi. Est-ce un retour précipité? On se pose la question dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.